There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Etasia Cinta. Nous voilà à Campo de l'Oro, l'aéroport d'Ajaccio.
Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais toutes les deux secondes, il atterrit ou il décolle un avion dans le monde avec des pièces produites par Crouch Composite.
Sur la zone industrielle du Vazio, juste en face, se fabrique de quoi atterrir et décoller pour les avions de ligne du monde entier.
À partir de la 380, donc notamment l'Airbus A350, qui est le long range, qui est aujourd'hui le plus vendu par Airbus, c'est nous qui avons conçu les trappes de train d'atterrissage avant et c'est nous qui les fabriquons aujourd'hui.
Ici, on fabrique des pièces complexes en matériaux composites à destination de l'aéronautique. Train d'atterrissage, éléments de voilure, de fuselage, de nacelle moteur. On fait donc autre chose sur l'île que des saucissons corses destinés à des touristes dans des périodes quelconques.
Nous allons développer des fonctions sur un avion, comme une trappe de train d'atterrissage. Cette fonction, nous allons la développer, donc nous allons faire le design, le calcul, les outillages, la mise au point, et ensuite nous produisons des pièces. C'est-à-dire que nous sommes très très haut dans la chaîne de valeur, tout de suite derrière des gros constructeurs tels qu'Airbus ou Dassault Aviation.
La haute technologie Noustral prend son envol depuis Ajaccio. De ces artisans de pointe que l'on rencontre sur la route, par estrade. Une road story qui s'écoute à travers les cieux.
Donc moi je m'appelle Jean-Yves Vedette, je suis directeur général de la société Corse Composite Aéronautique. Nous sommes implantés à Ajaccio.
Corse Composite Aéronautique a connu de nombreuses secousses causées par quelques trous d'air. Sa création a été imposée par l'État en 1982. Mais a dans un premier temps été mal vécue autant par les insulaires que par l'aérospatiale de l'époque. Ensuite, il y a eu la séquestration de l'ancien dirigeant. Le spectre du dépôt de bilan en 1992, les crises de la filière, jusqu'à l'incendie d'une de ses unités en 2016.
J'ai fait une école d'ingénieur, qui est les arts et métiers, et j'étais chez Aérospatiale à Cannes à l'époque, et j'ai rencontré le premier directeur de Corse Composite dans un avion. C'est lui qui m'a parlé de l'entreprise, et c'est à partir de là que j'ai décidé de venir à CCA, mais je pensais que c'était pour faire une première période de ma vie professionnelle, et en fait j'ai trouvé qu'une entreprise très ouverte vers l'extérieur, dans un domaine extrêmement compétitif mais extrêmement intéressant qu'est l'aéronautique, ben, je trouvais que c'était une chance aussi bien pour moi à titre personnel mais également pour la région.
Bon, l'aéronautique est plutôt implantée dans la région de Toulouse, l'Occitanie, et ses quelques 655 entreprises qui génèrent 90 000 emplois. Corse Composite a créé un pôle des industries aéronautiques Corse. Aujourd'hui, ce sont 9 entreprises, dont 3 sont des sous-traitants majeurs de Corse Composite Aéronautique. L'innovation en plan de vol, c'est leur slogan.
C'est une société qui a 30 ans, qui est née d'une volonté politique de créer des emplois industriels dans l'île. En 92, on a failli disparaître, donc gros plan de licenciement en interne. Et là, il a fallu trouver des voies pour développer l'entreprise. We'll be right back.
Voilà, donc là, on est au-dessus de la salle de moulage, donc la salle blanche de Corse Composite. C'est ici qu'on effectue toutes les opérations de drapage, donc d'empilage des plis, pour donner à la pièce sa forme finale. Donc c'est les plis qui vont venir être empilés sur un moule qu'on va ensuite envoyer dans un autoclave pour que la pièce prenne toutes ses caractéristiques physiques et ensuite qu'on puisse continuer le process, c'est-à-dire l'ajustage, la découpe, la peinture et la livraison au client qui va pouvoir l'assembler sur son avion. Donc c'est ici que le produit prend vie et que la pièce passe d'un état de tissu à l'état de pièce composite. Je suis Jean-Dominique Chail, donc moi je suis responsable commerce et prospection de Corse Composite Aéronautique. Je suis rentré à CCA il y a maintenant 8 ans, donc je suis ajaccien, j'ai grandi à Ajaccio, je suis parti comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Yves, pour faire mes études et essayer d'acquérir de l'expérience. Et je suis rentré ensuite à Corse Composite parce que c'est une formidable opportunité de travailler dans un secteur aussi pointu et aussi intéressant que l'aéro dans ma région d'origine.
Il y a deux tournants stratégiques que l'on a pris. On a développé un bureau d'études et on finance nos développements. Et la deuxième étape stratégique pour nous, ça a été le développement de notre filiale en Tunisie. Parce que quand on est à ce niveau-là de valeur ajoutée chez un client, on nous demande d'être extrêmement compétitif sur des cadences d'avions très élevées, comme la 320, que l'on produit à peu près à cadence 55 avions par mois. Et là, notre filiale tunisienne, qui est une filiale qu'on peut considérer comme bas coût, hein, est extrêmement rentre pour une grosse part dans la compétitivité de notre offre. Alors, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais en termes de mentalité, on n'est quand même pas si loin que ça des pays du Maghreb. Et la Tunisie était accessible pour nous parce qu'ils ils sont pas loin physiquement, ils parlent français et on a trouvé là-bas peu d'expérience mais de grandes compétences, on va dire de théoriques, hein. Donc on a trouvé là-bas une matière pour construire quelque chose et c'est ce qu'on est en train de démontrer depuis maintenant 5 ans. On est très content de la filiale qu'on a en Tunisie.
Donc juste pour avoir une image de l'usine, le flux des pièces, c'est un U. Là-bas, vous avez les pièces la matière première et les pièces élémentaires qui sortent. Et ensuite, on part de juste derrière le mur blanc, on moule les pièces et elles vont dans un autoclave, donc on cuit les pièces, donc la peau devient rigide. Et ensuite, on revient et on fait la peinture, l'assemblage, la mise en livraison et on livre là-bas. Le composite, c'est du tissu au départ, donc c'est une matière qui est très malléable et en fait on vient la mouler dans des outillages pour lui donner la forme de la pièce et c'est quand on la cuit, quand on la passe dans les autoclaves, qu'elle prend toutes ses propriétés physiques. Donc et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à la découper, à assembler des pièces dessus. Et ensuite à la livrer à l'avionneur.
Alors on est très atypique aujourd'hui dans le monde industriel aéronautique. Notre plus petit concurrent est 15 fois plus gros que nous et c'est notre seul concurrent sur le sol français. Nos concurrents se trouvent dans le monde entier et sont souvent des très très grosses entreprises de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Nous sommes 200, nous avons développé la notion de pôle aéronautique autour d'Ajaccio et il faut rajouter 150 personnes de plus, et en Tunisie nous sommes 160 personnes. Comment est-ce qu'on fait pour être dans la compétition à ce niveau-là? On s'est spécialisé sur certaines familles de produits et on a des fortes compétences pour développer ces familles de produits, des compétences qui sont reconnues chez des grands constructeurs comme Airbus, Dassault Aviation, et c'est des compétences qu'on essaie de faire valoir chez des constructeurs tels que Boeing, puisqu'on a une grosse activité de prospection sur le continent nord-américain, où ils sont d'ailleurs... La première réaction, c'est d'être très surpris qu'une petite société, entre guillemets, comme la nôtre, même si on est la plus grosse entreprise industrielle de l'île, soit à ce niveau-là de valeur ajoutée. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans une compétition mondiale. Dernièrement, nous avons gagné un très gros lot sur l'avion A320, en concurrence notamment avec des Américains, des Chinois, des Japonais et d'autres sociétés nordiques.
Donc la salle de moulage, c'est ce qui est derrière ce sas. Pourquoi il y a un sas? Parce que c'est une atmosphère contrôlée, c'est-à-dire qu'en termes de température, en termes d'hygrométrie, en termes de pollution de la pièce, on est obligé d'avoir des sas, les gens travaillent en blouse, etc. Donc voilà, donc là, on voit bien les plis. Donc ça, c'est toutes les découpes. Les plis sont découpés sur les machines que vous voyez là-bas au fond. Donc on part de rouleau, on découpe des petits bouts de tissu et on vient faire un empilage sur les moules. Là, vous voyez la pièce de nacelle du 330 de l'Airbus A330. Et on vient empiler tous les plis un par un pour avoir la pièce finale. Ça fait partie de tout ce qu'on dessine. Hein. Quand on disait qu'on avait le bureau d'études, on dessine aussi la manière dont on va positionner les tissus, les plis, etc., etc.
Alors, l'histoire de l'entreprise, il y a des hauts débats, et comme dans toutes les entreprises, je pense qu'il y aura encore des hauts débats, parce que on est vraiment dans le marché mondial, et donc notre seule voie de développement, c'est d'anticiper les choses, hein, et de choisir les bonnes stratégies. Sur le continent nord-américain, nous travaillons à une solution qui nous permettrait de nous installer physiquement aux États-Unis, en reproduisant le même schéma qu'ici, c'est-à-dire en ayant une filiale low cost au Mexique, ce qui nous permettrait de nous positionner, de nous donner des arguments supplémentaires pour nous positionner de manière favorable chez Boeing.
Équiper le Boeing 747, une belle ambition. Le rêve américain. Un sogno americano. Mais comment est-ce qu'on s'y prend avec un client américain ?
Très compliqué avec une société comme Boeing, puisque chez Airbus, nous avons une position qu'on peut considérer comme stratégique, chez Boeing, pas du tout. Donc il a fallu d'abord leur expliquer qu'on était en France, ce qui est déjà une première étape. Ensuite, qu'on soit en Corse ou pas, donc là pour eux c'est transparent. Hein. Donc ils sont venus nous voir, ils sont venus à deux occasions. Nous sommes allés les voir aussi également aux États-Unis. Et puis on entretient aujourd'hui des relations serré avec eux, puisque nous chiffrons des solutions techniques. Notamment, nous attendons qu'ils lancent un prochain avion pour essayer de se positionner dessus.
L'opération de pose des plis dont je vous parlais tout à l'heure, elle est vraiment faite aujourd'hui par l'homme. Il y a des solutions, il y a des robots, etc. Sur nos types de pièces, c'est des solutions applicables, mais qui pour nous n'ont pas aujourd'hui de valeur ajoutée. On ne voit pas l'intérêt de prendre un robot sur nos pièces, hein, vraiment sur les typologies de pièces qu'on fabrique, on ne voit pas l'intérêt aujourd'hui.
L'atelier ressemble aux pièces blanches des méchants dans les James Bond. Les employés portent des blouses de couleurs différentes qui se rapportent à leurs fonctions et on peut remarquer qu'il y a beaucoup de femmes.
Historiquement, dans l'atelier de moulage, il y a pas mal de femmes parce que au départ, il y avait beaucoup de formations de couture, etc. Là, c'est des plis, hein, donc c'est comme du textile. Donc, historiquement, il y a eu pas mal de femmes. Mais même dans les autres services, aujourd'hui, si on prend l'exemple du comité exécutif, il y a deux femmes au comité exécutif. Donc, la moitié du comité exécutif est féminin. Et c'est à peu près partout pareil. Voilà, là-bas on voit le positionnement de laser. Donc là, il est vraiment en train de faire ce qu'on appelle l'opération de drapage, de dépose des plis. Donc c'est en empilant tous ces plis selon un schéma bien particulier qu'on donne la rigidité à la pièce. Ça, par exemple, c'est un cadre qui va soutenir la nacelle des avions. C'est-à-dire, la nacelle, c'est ce qui entoure le moteur des avions.
Alors dans l'aéronautique, on a une chance importante, c'est qu'on prévoit un accroissement des besoins de l'ordre de 5 à 7% par an, donc en termes d'avions. Cette croissance peut avoir des soubresauts, notamment une guerre, hein, la guerre Irak-Iran, notamment le choc pétrolier. Donc tout ça, ça freine à un moment donné la livraison d'avions, parce que vous avez des compagnies aériennes qui peuvent aller mal, comme une épidémie de SRAS, des choses comme ça. Donc ça veut dire que ça a un impact immédiat sur nos activités, mais en même temps, une fois que ces événements sont passés, on va redémarrer pour livrer des avions. Donc il faut être extrêmement... Quand on est sur notre activité, il faut être capable d'absorber des baisses de charges pour repartir plus tard. Ça fait partie du business.
L'enregistrement de ces interviews s'est fait en février 2019.
On est collé à l'activité internationale et géopolitique.
Cet hiver-là, le Covid-19 n'avait pas encore cloué au sol les trois quarts des avions de la planète. Là, pendant que Jean-Yves Leccia s'exprime, le coronavirus est encore probablement confiné dans le corps d'un pangolin ou d'une chauve-souris, quelque part en Chine. Mais le risque de pandémie est déjà en tête de liste des craintes du président de Corse Composite Aéronautique.
Le truc tout simple, l'épidémie de SRAS, c'est une épidémie, ça fait que les gens, tout simplement, vous et moi, on va moins prendre l'avion parce qu'on a peur de tomber malade. Et donc les compagnies aériennes qui doivent recevoir des avions disent à Airbus, et plutôt que de se recevoir mon avion ce mois-ci, je préférais plutôt repousser la livraison à 5-6 mois. Et en cascade, Airbus nous dit, l'avion n'est plus à livrer maintenant, donc je n'ai plus besoin de vos pièces. Donc c'est très très rapide ça. Après, vous avez la guerre Iran-Irak qui a énormément freiné le développement des besoins des gens pour partir en vacances, des choses comme ça. Donc tout ça, en fait, ça freine. Les événements du 11 septembre ont fait que les gens n'ont plus pris l'avion de suite. Donc quand les gens ne prennent pas d'avion, il y a moins besoin d'avion, il y a moins besoin de commandes, il y a moins besoin de pièces, de Corse Composite.
Donc ça, c'est une machine d'usinage 5 axes. C'est ici que la pièce, une fois qu'elle sort de l'autoclave, on vient avec la machine la percer et la découper.
Aujourd'hui, on doit être l'entreprise qui embauche le plus d'ingénieurs en Corse, puisqu'on a embauché des dizaines et des dizaines. Donc c'est un peu particulier, ça donne une ouverture pour des jeunes qui veulent travailler ici. C'est un point important, je pense, pour développer la région, de ne pas avoir uniquement que des emplois qui sont des emplois saisonniers. Je pense que le développement d'une région, il est bien qu'il ne s'appuie pas que sur certaines activités, et qui permettent notamment une très grande ouverture vers l'extérieur, et c'est un petit peu ce que l'on essaie de promouvoir dans l'entreprise. Alors, la Corse est un atout pour des gens qui sont très attachés à leur cadre de vie, bien évidemment, c'est un atout, c'est indéniable. Mais c'est rarement ce qui pousse des gens à venir travailler chez nous, c'est plutôt l'intérêt du travail. Par contre, aujourd'hui, on a bon nombre de salariés qui sont des salariés qui sont venus de d'autres régions françaises et qui se sont installés ici et qui sont adjoints dans certaines mairies, des choses comme ça, bien sûr.
Quand un Pinsout venait s'installer en Corse pour un travail, une grand-mère de mon village faisait toujours la même remarque. S'il n'aime ni la chasse, ni la solitude, ni le pastis, l'hiver, il va vite s'ennuyer.
Il faut faire attention, la Corse est vue comme une destination touristique, mais faire venir des gens en Corse en hiver pour travailler, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est pas un avantage que l'on a, non. La Corse est très très bien dimensionnée en termes de ports et aéroports. Donc aujourd'hui, être en Corse pour parcourir le monde, ce n'est pas un problème. Dans l'histoire de la Corse, nos arrière-grands-parents ont tous été obligés souvent de s'exiler, de sortir de Corse, tout simplement pour manger. L'ouverture vers l'extérieur et les Corses qui vadrouillent le monde, c'est notre histoire. Et de par le fait qu'on soit une île, et donc on a l'ensemble, le pourtour de notre région qui est la mer, donc bien évidemment, dans l'histoire de la Corse, il y a eu énormément d'envahisseurs, entre guillemets, qui sont venus sur l'île. Oui, ça, ce qui ne change rien au fait qu'on ait notre propre culture, notre propre histoire, mais en tout cas, je pense que la Corse est plutôt ouverte sur l'extérieur.
Thank you.
C'était un épisode de Paris Strada, un podcast réalisé par Philippe Pujol et Anne-Sophie Lebon et produit par le label Popcast.
Dans le prochain épisode, c'est toujours par la mer que la Corse ouvre ses portes.